VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, appel au calme du ministre ivoirien de la Défense à la télévision nationale ce vendredi. Alain Richard d'Envoyé a demandé à l'armée de rester calme et de regagner ses casernes pour que des solutions durables soient trouvées aux problèmes des forces armées ivoiriennes. L'appel fait suite à la mutinerie des ex-rebelles intégrés dans l'armée à Bouaké, la deuxième ville du pays. Une mutinerie qui s'est ensuite étendue à deux autres agglomérations, Daloa, la capitale de la zone du cacao dans le centre-ouest, et Korogo dans le nord. La révolte a commencé très tôt ce matin avec des tirs à l'arme lourde à Bouaké. Jean-Roger Bion a joint sur place Rufine Koulibaly, une habitante de Bouaké, pour le film des événements.
Bon, ça a commencé aux environs de 1h du matin. Ils sont passés à la préfecture de police et puis dans des commissariats. Donc actuellement, ils sont en train de tirer, ils sont en ville. Bon, c'est pas au juste, c'est quelles revendications ils sont en train de faire. Donc tout le monde est rentré, tout le monde a fermé ses magasins. Tout est fermé au commerce, les entreprises, les banques, tout. Tout est fermé, les écoles aussi.
Alors qui tire justement dans les rues?
Bon, c'est les corps habillés là, c'est les militaires.
Ils viennent de quel camp de Bouaké?
Bon, à Bouaké, il y a plusieurs camps. Bon, c'est pas juste dans quel camp ils viennent. Puis il y a le 3e bataillon, il y a le camp commando. Et on avait dit que c'était les choses, les démobilisés. Après, on nous dit que non, il y a des militaires dedans. Donc tout le monde est chez lui, quoi. Donc on ne sait pas juste. C'est quelles revendications ils sont en train de faire. Parce que, bon, Bouaké a vécu la crise. Donc, c'est comme ça va commencer au début. On pensait que c'était une petite histoire. Puis bon, c'est devenu une grande histoire. Donc, tout le monde est sûr qu'ils vivent. Chacun est chez lui pour voir comment ça va se terminer.
Rufine Koulibaly, une habitante de Bouaké. Un officier a confié à l'AFP sous couvert d'anonymat qu'il s'agit, je cite, d'une mutinerie des ex-combattants intégrés dans l'armée qui réclament des primes de 5 millions de francs CFA, plus une maison chacun. Mais un simple soldat a affirmé pour sa part à l'AFP, nous réclamons non pas 5 millions de francs CFA, mais plutôt 10 millions chacun, plus une villa. Le cas échéant, nous ne regagnerons pas les casernes, a-t-il ajouté. Le chef de l'état-major et le ministre ivoirien de la Défense en personne sont attendus incessamment à Bouaké. Le gouvernement a réuni un comité national de crise et devrait faire avant la soirée le point de la situation. Au Burkina Faso, le procès des 27 militaires qui projetaient en 2015 de libérer des collègues emprisonnés après un putsch raté continue à Ouagadougou. Les avocats de la défense avaient soulevé hier des exceptions de nullité qui ont été rejetées par la cour après plus de 6 heures de délibération. La défense estimait que le tribunal militaire devait se déclarer incompétent vu que les infractions en cause n'ont pas été commises dans des établissements ou enceintes militaires, mais plutôt dans un domicile privé. Au Mali, des combattants de l'ex-rébellion à dominante Touareg sont entrés hier à Gao, principale ville du Nord, pour effectuer des patrouilles mixtes avec l'armée malienne et les groupes pro-Bamako. La CMA, la coordination des mouvements de la Zawad, avait déploré le 30 décembre dans un communiqué qu'un groupe de manifestants armés, hostile à la CMA, bloquait depuis plusieurs jours l'entrée d'une de ses compagnies composée de 200 hommes à Gao, qui est tenue par le gouvernement malien. Au Nigeria, une nouvelle lycéenne de Chibok, enlevée il y a près de 3 ans par le groupe islamiste Boko Haram, a été retrouvée par l'armée. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Rakia Aboubkar avait été enlevée le 14 avril 2014 avec 275 autres lycéennes de Chibok. Elle a été retrouvée près de la forêt de Sambisa avec son bébé de 6 mois, a annoncé dans un communiqué Sani Ousmane, porte-parole de l'armée. La jeune femme est actuellement examinée par des médecins militaires et devrait ensuite être confiée aux autorités de l'État de Borno. Le groupe Bring Back Our Girl ou Ramenez-nous nos filles n'a pas confirmé l'identité de la jeune fille pour l'instant. L'armée nigériane a également affirmé que 1400 civils accusés d'être des membres du groupe djihadiste ont été arrêtés entre le 28 décembre et le 4 janvier dernier. Début novembre, une jeune fille avait également été retrouvée près de la frontière du Cameroun et à la mi-octobre, le gouvernement nigérian avait réussi à négocier la libération de 21 d'entre elles. 195 lycéennes sont toujours disparues.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, semaine meurtrière pour la MINUSCA, la mission de l'ONU sur place. Un casque bleu du contingent bangladais a été tué hier dans le nord-ouest du pays, une zone où s'affrontent des éléments armés Peul, les anti-Balaka et les miliciens de la faction des 3R, à savoir retour, réclamation et réhabilitation du chef de guerre Sidiki. Ces accrochages ont lieu après la mort également cette semaine de deux casques bleus marocains attribués à des éléments de la LRA, la rébellion ougandaise de Joseph Kony, opérant dans le sud-est de la RCA. Au micro de Félix Yopassi Zambou, les explications de Jean-Fernand Kouena, du réseau des journalistes des droits de l'homme pour le compte de la MINUSCA à Bangui.
Un élément bengadèche a trouvé la mort hier dans une altercation entre les éléments 3R de Sidiki, qui est une faction de groupe rebelle qui vit dans l'Ampindé, et les éléments anti-Balaka qui se réclament des autodéfenses. Dans la localité, des éléments du contingent bengadèche étaient en rescousse à la population civile en détresse pendant ce combat. Il faut noter que ce cas que nous déplorons tous intervient deux jours après l'assassinat des deux soldats marocains dans la partie est de la République centrafricaine, notamment vers Demio et Rafai. Alors, selon un communiqué de la MINUSCA accuse les forces non conventionnelles des 3R d'être les commanditaires et responsables de cet acte malheureux, alors que de leur côté, ils rejettent en bloc tout lien et ne se disent pas être coupables de cet assassinat meurtrier de ce soldat bengadèche.
Jean-Fernand Kouena du RJDH, le réseau des journalistes des droits de l'homme en RCA. En RDC voisine, le Front pour le respect de la Constitution dans le parti phare et le MLC de Jean-Pierre Bemba tient absolument à diriger le Conseil de suivi de la transition. Le Front conditionne sa signature de l'accord politique du 31 décembre dernier à l'obtention de la gestion de cet organe que le compromis politique accorde plutôt à l'opposant historique Étienne Tshisekedi, dont la famille politique dirigera le gouvernement jusqu'à l'élection du successeur du président Joseph Kabila. Madame Eve Bazaïba est la secrétaire générale du MLC et chef de file du Front pour le respect de la Constitution.
Le rassemblement est venu nous visiter. Nous avons reçu non seulement la CENCO, l'ambassadeur de l'Union européenne et le rassemblement. Il y avait deux délégués du rassemblement, M. Martin Fayou, le député, et aussi M. Félix Tshisekedi, avec qui nous avons échangé. Nous avons fait voir clairement qu'il n'était pas question pour le rassemblement de diriger le gouvernement et de diriger l'organe du contrôle de mise en œuvre. Et je crois qu'ils nous ont compris et ils sont allés. Nous allons poursuivre les discussions. Ils ont un choix à faire, les points de soi, les gouvernement, soit les comités de suivi. Mais comme ils avaient déjà opté pour le gouvernement, ils ne peuvent pas être jugés partis. Est-ce que vous trouvez normal que le fils Tshisekedi est premier ministre et son père est chargé des contrôles du gouvernement, des contrôles de la CENI, des contrôles de mise en œuvre? Ça ne passe pas tout.
Eve Bazaïba, chef de file du Front pour le respect de la Constitution en RDC. Actualité hors d'Afrique maintenant, conflit en Syrie, plus de 15 mois après le début de son intervention militaire dans le pays en soutien aux forces du président Bachar al-Assad, la Russie annonce un retrait graduel de son arsenal déployé sur le terrain. Cette mesure intervient alors que les principaux fronts se sont plus ou moins calmés depuis la reconquête d'Alep, la deuxième ville de Syrie, par les forces pro-gouvernementales. Plus de précisions avec Gaby Dorsil.
Selon le chef de l'armée russe, le général Valery Gerasimov, que cite la presse locale, la réduction des effectifs et armements disponibles dans le théâtre syrien a commencé et se poursuivra dans les prochains jours, notamment avec le départ de la région du seul groupe aéronaval russe participant aux opérations aériennes en Syrie. Grâce à ce dispositif, Moscou a pu offrir une couverture aérienne aux opérations des soldats syriens, tout en s'en prenant directement aux forces rebelles, en particulier les djihadistes du groupe État islamique. Avec la fin des hostilités sur plusieurs fronts et la baisse des violences sur d'autres, le grand allié de Bachar al-Assad porte son attention sur deux objectifs. D'une part, il faut encourager le respect du cessez-le-feu négocié entre Moscou, Ankara et Téhéran, et d'autre part, activer les démarches diplomatiques en vue d'une solution à long terme en Syrie. À ce titre, le trio soutient la tenue prochaine de pourparlers au Kazakhstan entre les parties en conflit. Depuis mars 2011, le conflit syrien a fait plus de 310 000 morts et des millions de déplacés.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.